Frédéric Nietzsche, Humain, trop humain, tome 2, Opinions et sentences mêlées. 112. Le sel du discours. Personne n'a encore expliqué pourquoi les écrivains grecs ont fait un usage si singulièrement parcimonieux des moyens d'expression dont ils disposaient en une si extraordinaire mesure, au point que tout livre post-grec apparaît à côté criard, bariolé et exalté. On s'est laissé dire que, près des glaces du pôle Nord, tout aussi bien que sous les tropiques, l'usage du sel se raréfiait, que, par contre, les habitants des côtes et des plaines, dans les zones tempérées, en faisaient un usage plus abondant. Les Grecs, pour une double raison, parce que leur intellect étant plus froid et plus clair, le fond de leur nature passionnée par contre beaucoup plus tropicale que le nôtre, n'auraient-ils pas eu besoin de sel et d'épices dans la même mesure que nous? 113. L'écrivain le plus libre. Comment, dans un livre pour les esprits libres, ne nommerais-je pas Laurent Stern, lui, que Goethe a vénéré comme l'esprit le plus libre de son siècle? Qu'il s'arrange ici de l'honneur d'être appelé l'écrivain le plus libre de tous les temps. Comparé à lui, tous les autres apparaissent guindés, sans finesse, intolérants et d'allure vraiment paysanne. Il ne faudrait pas louer chez lui la forme claire, limitée, mais la méthode infinie, si par là, on pouvait donner un nom à un style dans l'art où la forme déterminée est sans cesse brisée, déplacée, replacée dans l'indéterminé, en sorte qu'elle signifie en même temps telle chose et telle autre chose. Stern est le grand maître de l'équivoque, le mot pris, bien entendu, dans un sens beaucoup plus large que l'on a coutume de faire lorsque l'on songe à des rapports sexuels. Le lecteur est perdu lorsqu'il veut connaître exactement l'opinion de Stern sur un sujet et savoir si l'auteur prend un air souriant ou attristé. Car il s'entend à donner les deux expressions en un même pli de son visage. Il s'entend de même, c'est là son but, à avoir à la fois tort et raison, à entremêler la profondeur et la bouffonnerie. Ces digressions sont à la fois des continuations du récit et des développements du sujet. Ces sentences contiennent en même temps une ironie de tout ce qui est sentencieux. Son aversion contre tout ce qui est sérieux est liée au désir de pouvoir tout considérer platement et par l'extérieur. C'est ainsi qu'il produit chez le lecteur véritable un sentiment d'incertitude. On ne sait plus si l'on marche, si l'on est debout ou couché. Cela se traduit par l'impression vague de planer. Lui, l'auteur le plus souple, transmet aussi au lecteur quelque chose de cette souplesse. Stern va même jusqu'à changer les rôles sans y prendre garde. Il est parfois lecteur tout aussi bien qu'auteur. Son livre ressemble à un spectacle dans le spectacle, à un public de théâtre devant un autre public de théâtre. Il faut se rendre à discrétion à la fantaisie de Stern, et l'on peut d'ailleurs s'attendre à ce qu'elle soit bienveillante, toujours bienveillante. Il est singulier, en même temps qu'instructif, de voir comment un grand écrivain tel que Diderot s'est comporté en face de l'équivoque universel de Stern. Il fut équivoque lui aussi, et cela précisément est de véritable humour supérieur à la Stern. A-t-il imité celui-ci dans son Jacques le fataliste? Imité, admiré, bafoué, parodié? On n'arrive pas à le savoir exactement, et peut-être est-ce là précisément ce qu'a voulu l'auteur. Ce doute rend les Français injustes à l'égard de cette œuvre de l'un des maîtres de leur littérature, qui peut se montrer à côté de tous ceux d'autrefois et d'aujourd'hui. Mais les Français sont trop sérieux pour l'humour, surtout pour cette façon humoristique de prendre l'humour. Est-il besoin d'ajouter que, parmi tous les grands écrivains, Stern est le plus mauvais modèle, l'auteur qui peut le moins servir de modèle, et que Diderot lui-même a dû pâlir de sa témérité. Ce que veulent les bons auteurs français en tant que prosateurs, et ce que voulurent avant eux quelques Grecs et quelques Romains, et ils y sont arrivés, c'est exactement le contraire de ce que veut Stern. Et celui-ci s'élève, comme une exception magistralement exécutée, au-dessus de ce qu'exigent d'eux-mêmes les écrivains artistes de tous les temps. La discipline, la limitation du cadre, le caractère, la persistance dans les intentions, la possibilité de dominer le sujet, la simplicité, l'attitude dans le développement, l'allure. Malheureusement, l'homme Stern semble avoir été trop parent de l'écrivain Stern. Son âme d'écureuil bondissait de branche en branche, avec une vivacité effrénée. Il n'ignorait rien de ce qui existait entre le sublime et la canaille. Il s'était perché partout, faisant toujours des yeux effrontés et voilés de larmes, et prenant sans cesse son air sensible. Si la langue ne s'effrayait d'une pareille association, on pourrait affirmer qu'il possédait un bon cœur dur, et, dans sa façon de jouir, une imagination baroque et même corrompue. C'était presque la grâce timide de l'innocence. Un tel sens de l'équivoque, entré dans l'âme et dans le sang, une telle liberté d'esprit, remplissant toutes les fibres et tous les muscles du corps, personne peut-être ne possédait ces qualités comme lui. 114. Réalité choisie. De même que le bon écrivain en prose ne se sert que des mots qui appartiennent à la langue de la conversation, mais se garde bien d'utiliser tous les mots de cette langue, c'est ainsi que se forme précisément le style choisi. De même, le bon poète de l'avenir ne représentera que les choses réelles, négligeant complètement tous les objets vagues et démonétisés, faits de superstition et demi-franchise, en quoi les poètes anciens montraient leur force. Rien que la réalité, mais nullement toute la réalité. Bien plutôt, une réalité choisie. 115. Espèce bâtarde de l'art. À côté des espèces véritables de l'art, celles de la grande tranquillité et celles du grand mouvement, il existe des espèces bâtardes. L'art blasé et avide de repos et l'art agité. Les deux espèces souhaitent que l'on prenne leur faiblesse pour de la force et qu'on les confonde avec les espèces véritables. 116. La couleur manque pour faire le héros. Les poètes et les artistes véritables du temps présent aiment à appliquer leur peinture sur un fond éclatant de rouge, de vert, de gris et d'or, sur le fond de la sensualité nerveuse. Les enfants de ce siècle s'entendent à cela. Mais on s'aperçoit d'un inconvénient lorsque ce n'est pas avec les yeux de ce siècle que l'on regarde ces peintures. On s'aperçoit que les personnages exécutés par ces artistes semblent avoir quelque chose de papillotant, d'hésitant et d'agité. De sorte qu'au fond, on n'a pas confiance en leurs faits héroïques. Ce sont tout au plus des méfaits de hâbleurs qui veulent simuler l'héroïsme. 117. Style de la surcharge. Le style surchargé dans l'art est la conséquence d'un appauvrissement de la puissance organisatrice, accompagné d'une extrême prodigalité dans les moyens et dans les intentions. Dans les commencements d'un art, on trouve quelquefois précisément l'opposé de ce fait. 118. Pulchrum est paucorum hominum. L'histoire et l'expérience nous disent que la monstruosité particulière qui excite mystérieusement l'imagination et transporte celle-ci au-dessus de la réalité de la vie quotidienne est plus ancienne et croît plus abondamment que le beau dans l'art et la vénération du beau, et qu'elle se remet de nouveau à foisonner dès que s'obscurcit le sens du beau. Elle semble être, pour la majorité des hommes, pour le plus grand nombre, un besoin supérieur au goût du beau, probablement parce qu'elle contient un narcotique plus grossier. 119. L'origine du goût pour les œuvres d'art. Si l'on songe aux germes primitifs du sens artistique, et si l'on se demande quelles sont les différentes espèces de plaisirs engendrées par les premières manifestations de l'art, par exemple chez les peuplades sauvages, on trouve d'abord le plaisir de comprendre ce que veut dire un autre. L'art est ici une espèce de devinette qui procure à celui qui en trouve la solution le plaisir de constater la rapidité et la finesse de son propre esprit. Ensuite, on se souvient, à l'aspect de l'œuvre d'art la plus grossière, de ce que l'on sait par expérience avoir été une chose agréable. Et l'on se réjouit, par exemple, quand l'artiste a indiqué des souvenirs de chasse, de victoire, de fête nuptiale. On peut encore se sentir ému, touché, enflammé, en voyant d'autre part des glorifications de la vengeance et du danger. Ici, l'on trouve la jouissance dans l'agitation par elle-même, dans la victoire sur l'ennui. Le souvenir d'une chose désagréable, si elle est surmontée, ou bien si elle nous fait paraître nous-mêmes devant l'auditeur, intéressant au même degré qu'une production d'art, quand, par exemple, le ménestrel décrit les péripéties d'un marin intrépide, ce souvenir peut provoquer un grand plaisir que l'on attribue alors à l'art. D'espèce plus subtile est la joie qui naît à l'aspect de tout ce qui est régulier, symétrique, dans les lignes, les points et les rythmes. Car, par une certaine similitude, on éveille le sentiment de tout ce qui est ordonné et régulier dans la vie, à quoi l'on doit seul toute espèce de bien-être. Dans le culte de la symétrie, on vénère donc inconsciemment la règle et la belle proportion, comme source de tout le bonheur qui nous est venu. Cette joie est une espèce d'action de grâce. Ce n'est qu'après avoir éprouvé une certaine satisfaction de cette dernière joie que naît un sentiment plus subtil encore, celui d'une jouissance obtenue en brisant ce qui est symétrique et réglé. Si ce sentiment incite, par exemple, à chercher la raison dans une déraison apparente, par quoi il apparaît alors comme une espèce d'énigme esthétique, catégorie supérieure de la joie artistique, mentionnée en premier lieu. Celui qui poursuit encore cette considération saura à quelle espèce d'hypothèse, pour l'explication du phénomène esthétique, on renonce ici par principe. 120. Pas trop rapproché. Il y a des avantages pour les bonnes pensées à se suivre de trop près. Elles se cachent réciproquement la vue. C'est pourquoi les plus grands artistes et les plus grands écrivains ont fait un usage abondant du médiocre. 121. Brutalité et faiblesse. Les artistes de tous les temps ont fait la découverte que dans la brutalité réside une certaine force et que celui qui le voudrait ne peut pas toujours être brutal. De même que certaines catégories de la faiblesse agissent profondément sur le sentiment. On s'est servi de tout cela pour déduire des équivalents à des procédés d'art, et il est difficile, même aux artistes les plus grands et les plus consciencieux, de s'en abstenir complètement. 122. La bonne mémoire. Certains ne parviennent pas à devenir des penseurs parce que leur mémoire est trop bonne. 123. Affamé au lieu de rassasier. De grands artistes s'imaginent qu'au moyen de leur art, ils ont totalement pris possession d'une âme et que dès lors qu'ils l'occupent entièrement, en réalité, et souvent à leur grande déception, cette âme n'en est devenue que plus vaste et plus vide, en sorte que 10 grands artistes pourraient se jeter au fond sans la rassasier. 124. Crainte de l'artiste. De crainte de se voir objecter que leur figure ne soit pas vivante, certains artistes, pourvus d'un goût qui va en s'affaiblissant, peuvent être induits à former celle-ci de façon à leur donner des apparences de folie, de même que, d'autre part, par une crainte semblable, les artistes grecs des origines prêtèrent même à des mourants et à des hommes dangereusement blessés ce sourire qu'ils savaient être le signe le plus certain de la vie, sans se préoccuper de la façon dont la nature présente les derniers vestiges de la vie. 125. Le cercle doit être décrit. Celui qui a suivi une philosophie ou une manière d'art jusqu'à la fin de sa carrière, et encore au-delà de cette fin, comprendra, par son expérience intérieure, pourquoi les maîtres et les prophètes qui survivent s'en sont détournés d'un air dédaigneux pour suivre une autre voie. Certes, il faut que le cercle soit décrit, mais l'individu, fût-il des plus grands, s'arrête sur un point de la perspective, avec un air d'obstination implacable, comme si le cercle ne pouvait jamais être fermé. 126. L'art ancien et l'âme du présent. Parce que tout art trouve, pour l'expression des états d'âme, des moyens toujours plus flexibles, plus doux, plus violents, plus passionnés, et y est toujours plus apte, les maîtres venus plus tard, gâtés par ces moyens d'expression, ressentent un malaise en face des œuvres d'art des temps plus anciens, comme si les maîtres d'autrefois n'avaient manqué que des moyens indispensables à faire parler distinctement leur âme, peut-être même de quelques préparations techniques. Et ils pensent devoir leur venir en aide, car ils croient à l'égalité et même à l'unité de toutes les âmes. Mais en réalité, l'âme de ces maîtres eux-mêmes était encore une autre. Elle était plus grande peut-être, mais plus froide et opposée aussi à ce qui veut faire de l'effet. La mesure, la symétrie, le mépris de tout ce qui charme et ravit, une inconsciente rudesse et une fraîcheur du matin, une fuite devant la passion, comme si la passion provoquait la destruction de l'art. Voilà ce qui composa le sentiment et la moralité des maîtres anciens, qui nécessairement, et non point seulement par hasard, choisirent leurs moyens d'expression et les animèrent de la même moralité. Faut-il donc, après être arrivé à cette connaissance, refuser, à ceux qui viennent plus tard, le droit de faire revivre leur propre âme dans l'âme des œuvres anciennes. Non, car ce n'est qu'en leur donnant notre propre âme que nous les rendons capables de vivre encore. C'est notre sang qui les amène à nous parler. L'exécution vraiment historique serait une exécution fantasmagorique présentée à des fantômes. On honore les grands artistes du passé moins par cette crainte stérile qui laisse à sa place, sans y toucher, chaque note, chaque parole, que par d'actifs efforts pour leur procurer sans cesse une vie nouvelle. Il est vrai que si l'on imaginait Beethoven revenant soudain et entendant l'une de ses œuvres, dirigée en conformité avec l'état d'âme et la subtilité des nerfs modernes qui font la gloire de nos maîtres de l'exécution, il demeurerait probablement longtemps muet, ne sachant pas s'il doit élever la main pour maudire ou pour bénir. Mais il finirait peut-être par dire « Eh bien, ce n'est pas moi que je retrouve ici, mais ce n'est pas non plus un non-moi. C'est une troisième chose. Cela me semble être aussi parfait, bien que ce ne soit pas la chose parfaite. Mais c'est à vous de veiller à ce que vous faites, comme c'est vous qui devez écouter. Et c'est la vie qui a raison, comme dit Schiller. Ayez donc raison et laissez-moi redescendre dans la tombe. » 127. Contre ceux qui blâment la brièveté. Quelque chose qui est dit brièvement peut être le fruit et le résultat de quelque chose de longuement médité. Mais le lecteur, qui est novice sur ce terrain et qui n'y a pas autrement réfléchi, voit quelque chose d'embryonnaire dans tout ce qui est dit brièvement, non sans un blâme à l'adresse de l'auteur qui a osé lui présenter un mets qui n'était pas cuit à point. 128. Contre les myopes. Croyez-vous donc que c'est de l'ouvrage décousu parce qu'on vous le présente en morceaux et qu'il faut vous le présenter ainsi? 129. Lecteur de sentence. Les plus mauvais lecteurs de sentence, ce sont les amis de l'auteur, pour peu qu'ils s'appliquent à conclure du général au particulier. À quoi les sentences doivent leur origine? Car, en faisant ainsi les flaireurs de cuisine, ils mettent à néant toute la peine que s'est donnée l'auteur, et n'y gagnent, comme ils le méritent d'ailleurs, au lieu d'un aperçu ou d'un enseignement philosophique, au meilleur cas ou au pire, que la satisfaction d'une vulgaire curiosité. 130. Inconvenance du lecteur. Pour le lecteur, il y a double inconvenance à l'égard de l'auteur. Louer le second ouvrage de celui-ci aux dépens du premier, ou vice-versa, et à prétendre à la reconnaissance de l'auteur. 131. Ce qu'il y a de troublant dans l'histoire de l'art. Si l'on poursuit, au point de vue historique, le développement d'un art, par exemple de l'éloquence grecque, allant de maître en maître, on finit par arriver en face de cette sobriété toujours grandissante qui s'applique à obéir à toutes les lois et restrictions anciennes et nouvelles, et enfin à une contrainte pénible. On comprend alors que l'arc devra se briser nécessairement et que ce que l'on appelle la composition inorganique, drapée et masquée d'extraordinaires moyens d'expression, dans ce cas le style baroque de l'asiatisme, a été une nécessité et presque un bienfait. 132. Au héros de l'art. Cet enthousiasme pour une cause que les grands hommes apportent dans le monde fait s'étioler l'intelligence d'un grand nombre d'hommes. Il est humiliant de savoir cela. Mais l'enthousiaste porte sa bosse avec joie et fierté. C'est une consolation de savoir que, par le héros, le bonheur a augmenté dans le monde. 133. Le manque de conscience esthétique. Dans une école d'art, les véritables fanatiques sont ces natures complètement inartistiques qui n'ont pas pénétré même dans les éléments de l'esthétique et du savoir-faire, mais qui sont empoignées violemment par les effets élémentaires d'un art. Pour elles, il n'y a point de conscience esthétique, et par conséquent, il n'y a rien qui pourrait les détourner du fanatisme. 134. Comment l'âme doit se mouvoir d'après la musique nouvelle? L'intention artistique que poursuit la musique nouvelle, dans ce que l'on désigne aujourd'hui d'un terme fort, mais sans précision, par mélodie infinie, peut être comprise clairement si l'on descend dans la mer, perdant peu à peu l'assurance de la marche sur le fond incliné, pour s'abandonner enfin à la merci de l'élément agité. On est forcé de nager. La musique ancienne, celle que l'on faisait jusqu'à présent dans un va-et-vient, tantôt maniéré, tantôt solennel, tantôt fougueux, allant soit plus vite, soit plus lentement, vous forçait à danser. Tandis que la mesure nécessaire, l'observation de certains degrés équivalents de temps et de force, exigeait dans l'âme de l'auditeur une continuelle circonspection. Le charme de cette musique reposait sur le jeu réciproque de ce courant froid que produisait la circonspection avec l'haleine chaude de l'enthousiasme médical. Richard Wagner voulut une autre espèce de mouvement de l'âme, une espèce voisine de la nage et du balancement dans les airs. Peut-être est-ce là l'essentiel dans toute son innovation. Son célèbre procédé d'art, né de cette volonté et adapté à celle-ci, la mélodie infinie, s'applique à briser toute proportion mathématique de temps ou de force. Il va parfois jusqu'à les narguer, et il est fécond dans l'invention d'effets qui sonnent à l'oreille ancienne comme des paradoxes rythmiques et des propos calomnieux. Il craint la pétrification, la cristallisation, le passage de la musique dans les formes architecturales. Et c'est pourquoi il oppose au rythme à deux temps un rythme à trois temps. Et il n'est pas rare qu'il introduise la mesure à cinq et à sept temps, qu'il répète immédiatement la même phrase, mais avec un allongement, pour qu'elle atteigne à une durée double et triple. D'une imitation facile de pareils artifices peut naître un grand danger pour la musique. À côté d'une trop grande maturité du sentiment rythmique, guettait toujours à la dérobée la décomposition, la dégénérescence du rythme. Ce danger devient surtout très grand lorsqu'une pareille musique s'appuie toujours plus étroitement sur un art théâtral et un langage de gestes tout à fait naturaliste, que nulle plastique supérieure ne guide et ne domine, un art et un langage qui, par eux-mêmes, ne possèdent aucune mesure et qui ne sont par conséquent nullement à même de communiquer la mesure à l'élément qui s'adapte à eux, à l'essence trop féminine de la musique. 135. Poète et vérité. La muse du poète qui n'est pas amoureux de la vérité ne sera pas précisément la vérité, et elle lui mettra au monde des enfants aux yeux cernés, aux membres trop délicats. 136. Moyens et but. En art, le but ne sanctifie pas les moyens, mais les moyens sacrés peuvent sanctifier le but. 137. Les plus mauvais lecteurs. Les plus mauvais lecteurs sont ceux qui procèdent comme les soldats pillards. Ils s'emparent, çà et là, de ce qu'ils peuvent utiliser, souillent et confondent le reste, et couvrent le tout de leurs outrages. 138. Caractère des bons écrivains. Les bons écrivains ont deux choses en commun. Ils préfèrent être compris que regarder avec étonnement. Et ils n'écrivent pas pour les lecteurs aigres et trop subtils. 139. Les genres mêlés. Les genres mêlés dans les arts témoignent de la méfiance que leurs auteurs ont eue à l'égard de leurs propres forces. Ils ont cherché des puissances alliées, des intercesseurs, des couvertures, tel le poète qui appelle à son aide la philosophie, le musicien qui a recours au drame et le penseur qui s'allie à la rhétorique. 140. Se taire. L'auteur doit se taire lorsque son œuvre se met à parler. 141. Un signe du rang. Tous les poètes et écrivains qui sont amoureux du superlatif veulent plus qu'ils ne peuvent. 142. Livre froid. Le bon penseur compte sur des lecteurs qui ressentent après lui la joie qu'il y a à bien penser, en sorte qu'un livre qui a l'air froid et sobre, s'il est vu par un œil juste, caressé par le rayon de soleil de la sérénité intellectuelle, peut apparaître telle une véritable consolation de l'âme. 143. Artifice du balourd. Le penseur lourd choisit généralement comme allié la loquacité ou la solennité. Au moyen de la première, il croit s'approprier de la mobilité et de la limpidité. Au moyen de la seconde, il fait croire que sa qualité est l'effet d'un libre choix, d'une intention artistique, en vue d'arriver à la dignité qui exige la lenteur des mouvements. 144. Du style baroque. Celui qui, en tant que penseur et écrivain, sait qu'il n'a été ni créé, ni élevé pour la dialectique et le déploiement des pensées, aura involontairement recours à la rhétorique et au style dramatique. Car en fin de compte, il lui importe avant tout de se rendre intelligible et de gagner ainsi de la puissance, quelle que soit la façon dont il attire à lui le sentiment, que ce soit sur les routes frayées ou par surprise, comme berger ou comme brigand. Cela est vrai dans tous les arts, où le sentiment d'un défaut de dialectique ou d'une insuffisance dans l'expression et le récit, allié à un instinct de la forme dont l'abondance tend à se déverser, engendre cette catégorie du style que l'on appelle style baroque. Il n'y a d'ailleurs que les gens prétentieux et mal informés, chez qui ce mot évoquera une idée d'abaissement. Le style baroque naît chaque fois que dépérit un grand art. Lorsque, dans l'art de l'expression classique, les exigences sont devenues trop grandes, il se présente comme un phénomène naturel à quoi l'on assistera peut-être avec mélancolie, parce qu'il précède la nuit, mais en même temps avec admiration, à cause des arts de compensation dans l'expression et le récit qui lui sont particuliers. Il faut noter avant tout le choix du sujet et la donnée d'un extrême intérêt dramatique où l'on frémit déjà sans l'aide d'aucun artifice de l'art, parce que le ciel et l'enfer sont trop près du sentiment. Puis, l'éloquence des passions et des attitudes violentes, de la laideur sublime, des grandes masses et en général de la quantité, comme on en voit déjà les traces chez Michel-Ange, le père ou le grand-père des artistes du style rococo italien. Les lumières du crépuscule, de la transfiguration ou de l'incendie sur les formes très accentuées. Avec cela, sans cesse de nouvelles audaces dans les moyens et les intentions, fortement soulignées par l'artiste pour les artistes, tandis que le profane croit voir le perpétuel débordement involontaire de toutes les cornes d'abondance d'un art naturel et primesautier. Toutes ces qualités qui font la grandeur de ce style ne sauraient se retrouver aux époques antérieures, classiques ou préclassiques, d'une manière d'art, et n'y seraient pas tolérées, car des choses aussi exquises demeurent longtemps suspendues à leur arbre comme des fruits défendus. Maintenant surtout, la musique étant en train de passer dans cette dernière phase, on peut apprendre à connaître ce phénomène du style baroque qui se présente avec une splendeur particulière et par comparaison éclairer le passé d'une lumière nouvelle. Car depuis le temps des Grecs, il y a souvent eu un style baroque dans la poésie, l'éloquence, la sculpture. Et chaque fois, ce style, bien que la plus haute noblesse lui fît défaut, de même qu'une perfection innocente, inconsciente et victorieuse, a exercé une influence salutaire sur de nombreux artistes de son temps, les meilleurs et les plus sérieux. C'est pourquoi il y aurait quelque témérité à vouloir le condamner sans plus, quoique chacun puisse s'estimer heureux si, par là, son jugement n'a pas été fermé aux œuvres plus pures et de plus grand style. 145. La valeur des livres honnêtes. Les livres honnêtes rendent le lecteur honnête, du moins en ce sens qu'ils provoquent chez lui la haine et la répugnance qu'il cache généralement par une subtile rouerie. Vis-à-vis d'un livre, on se laisse aller, quelle que soit la retenue que l'on montre en face des hommes. 146. Par quoi l'art crée un parti? Quelques beaux paysages, un développement qui émotionne, une conclusion entraînante qui dispose favorablement, voilà ce qui, dans une œuvre d'art, pourra être accessible à la plupart des profanes. Et dans une période artistique où l'on veut attirer du côté des artistes la grande masse profane, donc créer un parti qui devra peut-être servir à la conservation de l'art en général, le créateur fera bien de ne pas donner l'avantage, car autrement, il épuiserait sa force sur des domaines où personne ne lui saurait gré de son zèle. Faire le reste, c'est-à-dire imiter la nature dans ses fonctions organiques et son développement, ce serait, dans ce cas particulier, comme si on se met dans l'eau. 147. Devenir grand aux dépens de l'histoire. Tout maître moderne qui entraîne dans son orbite le goût de l'amateur d'art provoque involontairement un choix parmi les œuvres des maîtres anciens et une nouvelle évaluation. Ce qu'il y a dans celle-ci de conforme à sa nature, de parent à son génie, ce qui le prévoit et l'annonce, apparaît dès lors comme ce qu'il y a de véritablement significatif dans les œuvres anciennes. Et c'est un fruit où se cache généralement le ver d'une grosse erreur. 148. Comment on peut gagner une époque pour l'art? Que l'on apprenne aux hommes, au moyen de toutes les séductions des artistes et des penseurs, à avoir de la vénération pour leurs défauts, leur pauvreté intellectuelle, leur aveuglement insensé, et leurs passions. Et cela est possible, que l'on ne montre que le côté sublime du crime et de la folie, de la faiblesse des gens sans volonté, et de ceux qui se soumettent aveuglément, que le côté touchant. Cela aussi a été fait assez souvent, et l'on aura employé le moyen qui peut inspirer à une époque, fut-elle des plus anti-artistiques et anti-philosophiques, l'amour enthousiaste de la philosophie et de l'art, surtout l'amour des artistes et des penseurs. Et, dans des circonstances critiques, peut-être la seule façon de conserver l'existence d'organismes aussi tendres et aussi exposés. 149. Critique et joie. La critique, tant l'exclusive et l'injuste que l'intelligente, fait à celui qui l'exerce un plaisir tel que le monde doit de la reconnaissance à toute œuvre, tout acte qui provoque beaucoup de critiques de la part de nombreuses personnes. Car la critique laisse sur son sillage une traînée étincelante de joie, d'esprit, d'admiration de soi, de fierté, d'enseignement, de bonne résolution. Le dieu de la joie créa le mauvais et le médiocre pour la même raison qui lui fit créer le bien. 150. Au-delà des limites. Lorsqu'un artiste veut être plus qu'un artiste, par exemple, le prophète du réveil moral de son peuple, il finit par s'enticher, c'est là sa punition, d'un monstre de sujet moral. Et cela fait rire sa muse, car la jalousie peut aussi rendre méchante cette déesse au bon cœur. Que l'on songe plutôt à Milton et à Klopstock. 151. Œil de verre. L'inclination du talent vers des sujets, des personnages, des motifs moraux, vers la belle âme de l'œuvre d'art, ne provient souvent que d'un œil de verre que se met l'artiste qui manque d'âme. Cette substitution produit parfois ce résultat très extraordinaire, que cet œil finit par devenir la nature vivante, bien qu'avec un aspect un peu étiolé. Et tout le monde croit généralement voir la nature où il n'y a que du verre froid. 152. Écrire et vouloir vaincre. Le fait d'écrire devrait toujours annoncer une victoire remportée sur soi-même, dont il faut faire part aux autres pour leur enseignement. Mais il y a des auteurs dyspepsiques qui n'écrivent précisément que lorsqu'ils ne peuvent pas digérer quelque chose. Ils commencent même parfois à écrire quand ils ont encore leur nourriture dans les dents. Ils cherchent involontairement à communiquer leur mauvaise humeur au lecteur pour lui donner du dépit et exercer ainsi un pouvoir sur lui, c'est-à-dire qu'eux aussi veulent vaincre, mais les autres. 153. Bon livre, c'est attendre. Tout bon livre a une saveur âpre lorsqu'il paraît. Il a le défaut de la nouveauté. De plus, son auteur lui est nuisible, parce qu'il est encore vivant et que l'on parle de lui, car tout le monde a l'habitude de confondre l'écrivain et son œuvre. Ce qu'il y a en celle-ci, d'esprit, de douceur, d'éclat, devra se développer avec l'âge, grâce à une admiration toujours grandissante, à une vieille vénération qui finit par être traditionnelle. Maintes heures doit avoir passé là-dessus, et bien des araignées devront y tisser leur toile. De bons lecteurs rendent un livre toujours meilleur, et de bons adversaires l'éclaircissent. 154. L'excessif comme procédé d'art. Les artistes savent bien comment on se sert de l'excessif pour produire l'impression de richesse. C'est là un des moyens de séduction les plus innocents à quoi doivent s'entendre les artistes. Car dans leur monde, où l'on vise à l'apparence, les moyens de l'apparence ne seront pas forcément vrais. 155. L'orgue de barbarie cachée. Les génies s'entendent mieux que les talents à cacher leur orgue de barbarie parce qu'ils savent se draper dans des plis plus abondants. Mais au fond, eux aussi ne savent que jouer sans cesse leurs 7 morceaux, toujours les mêmes. 156. Le nom sur la page de titre. Il est vrai que c'est maintenant un usage et presque un devoir de mettre sur un livre le nom de son auteur. Mais c'est une des raisons qui fait que les livres portent si peu, car s'ils sont bons, ils valent plus que les personnes, étant la quintessence de celles-ci. Mais dès que l'auteur se fait connaître par le titre, le lecteur se plaît à diluer la quintessence par ce qu'il voit de personnel, de plus personnel, et il met ainsi à néant le but du livre. C'est l'orgueil de l'intellect de ne plus paraître individuel. 157. La critique la plus violente. On critique le plus violemment un homme, une œuvre, lorsque l'on en dessine l'idéal. 158. Peu et sans amour. Tout bon livre est écrit pour son espèce, et c'est pourquoi tous les autres lecteurs, c'est-à-dire le plus grand nombre, l'accueillent fort mal. Sa réputation repose sur une base étroite et ne peut être édifiée que lentement. Le livre médiocre et mauvais l'est tout bonnement parce qu'il cherche à plaire au grand nombre et qu'il lui plaît. 159. Musique et maladie. Le danger de la musique nouvelle, c'est qu'elle nous présente la coupe des délices et du sublime avec un geste si captivant et avec une telle apparence d'extase morale que le plus modéré et le plus noble finit toujours par en absorber quelques gouttes de trop. Mais cette minime débauche, répétée à l'infini, peut amener finalement une altération de la santé intellectuelle plus profonde que celle qui résulterait des excès les plus grossiers. En sorte qu'un jour, il ne restera plus autre chose à faire qu'à fuir la grotte des nymphes pour retourner, à travers les flots et les dangers, vers l'ivresse d'Ithaque et les baisers de l'épouse, plus simple et plus humaine. Bref, de retourner au foyer. 160. Avantages pour les adversaires. Un livre plein d'esprit en communique aussi à ses adversaires. 161. Jeunesse et critique. Critiquer un livre chez les jeunes gens, c'est seulement tenir à distance toutes les idées productives de ce livre et se défendre contre elles des pieds et des mains. Le jeune homme vit sur la défensive à l'égard de tout ce qui est nouveau, lorsqu'il ne peut pas l'aimer en bloc, ce qu'il lui fait chaque fois, et tant qu'il peut, commettre un crime inutile. 162. Effet de la quantité. Le plus grand paradoxe dans l'histoire de la poésie, c'est d'affirmer qu'un homme peut être un barbare dans tout ce qui faisait la grandeur des poètes anciens. Un barbare, c'est-à-dire un être défectueux et contrefait, de pied en cap, et demeurer quand même le plus grand poète. C'est le cas de Shakespeare, qui, mis en parallèle avec Sophocle, ressemble à une mine inépuisable d'or, de plomb et d'éboulis, en face d'un trésor d'or pur, d'or d'une qualité si précieuse qu'il fait presque oublier sa valeur en tant que métal. Mais la quantité, à sa plus haute puissance, agit comme qualité. Et c'est ce dont Shakespeare profite. 163. Tout commencement est danger. Le poète a le choix ou d'élever le sentiment d'un degré à l'autre et de le hausser ainsi très considérablement, ou d'essayer d'agir par surprise et de tirer dès le début très fortement à la cloche. Les deux choses sont dangereuses. Dans le premier cas, l'ennui fera peut-être prendre la fuite à l'auditeur. Dans le second cas, la peur. 164. En faveur des critiques. Les insectes piquent, non par méchanceté, mais parce que eux aussi veulent vivre. Il en est de même des critiques. Ils veulent notre sang et non pas notre douleur. 165. Succès des sentences. Les gens inexpérimentés croient toujours que du moment qu'une sentence leur paraît évidente à première vue, par sa vérité simple, cette sentence est vieille et connue, et ils se prennent à en regarder l'auteur de travers, comme s'il avait voulu voler le bien commun de tous. Tandis que, lorsqu'ils entendent des demi-vérités bien épicées, ils s'en réjouissent et font connaître leur joie à l'auteur. Celui-ci sait apprécier une pareille indication et devine facilement ce qui lui a réussi et ce qu'il a mal fait. 166. Vouloir vaincre. Un artiste qui, dans tout ce qu'il entreprend, dépasse ses forces, finira par entraîner la foule avec lui, par le spectacle même de la lutte formidable qu'il lui offre. Car le succès n'est pas toujours seulement dans la victoire, mais parfois déjà dans le désir de vaincre. 167. Sibi Scribere. L'auteur raisonnable n'écrit pas pour une autre postérité que la sienne, c'est-à-dire pour sa propre vieillesse, car il pourra alors se réjouir sur lui-même. 168. Éloge de la sentence. Une bonne sentence est trop dure pour la mâchoire du temps, et des milliers d'années ne suffiront pas à la dévorer, quoique toutes les époques s'en nourrissent. Par cela, elle est le grand paradoxe dans la littérature, l'impérissable au milieu du changement, l'aliment toujours apprécié comme le sel, mais qui ne perd pas sa saveur.